Jusqu'à minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
Départ à l'instant d'Alberto Contador, le dynamiteur de ce 100e Tour de France. Il est un cran en dessous par rapport à ses grandes années, le grimpeur espagnol de l'équipe Saxo-Tinkoff. Il est allé au sol hier dans la descente de La Rochelle, entraînant Christopher Froome dans son déséquilibre. Aujourd'hui, il a promis de continuer à mettre le feu au Tour de France. Alberto Contador qui s'élance sur une route sèche. Manque de chance peut-être pour lui. La pluie s'est arrêtée sur les 32 km du parcours. Le maillot jaune Christopher Froome, lui, sort de son bus Sky. Ils auront 6 minutes de différence sur la route. A priori, ils seront traités de la même manière par le dieu Éole et par les dieux de la météo aujourd'hui.
Oui, les dieux de la pluie, on a essayé de faire venir les Indiens pour qu'ils fassent la danse de la pluie, mais la pluie s'est arrêtée. Chris Froome est au départ, Fred, pour donc ce contre-la-montre de 32 km. Christopher Froome, leader du classement général, qui va donc s'élancer dans un instant, alors que Alberto Contador s'est annoncé il y a 6 minutes maintenant.
Christopher Froome, combinaison jaune sur le dos avec ses gants noirs et bleus, sur chaussures noires, casque noir et jaune qui s'élance. C'est le dernier à partir d'embrun et de la rampe de lancement. Visage très très concentré pour Christopher Froome qui a dû faire une prière avant de partir pour que les dieux du ciel soient avec lui. Ils le sont a priori puisque ce contre-la-montre perturbé par l'apparition de la pluie tout à l'heure n'est plus du tout inondé et les routes sont en train de s'assécher pour le plus grand bonheur de Christopher Froome. Alberto Contador lui aurait sans doute préféré des routes totalement humides. Christopher Froome va pouvoir a priori assurer sa place en haut du classement général.
La grande bagarre a commencé car tous les leaders du classement général, tous les outsiders et tous les favoris de ce Tour de France sont actuellement sur la route. On va retrouver tout de suite la moto RMC qui a décroché, qui était tout à l'heure derrière Jean-Christophe Perrault et qui se trouve maintenant derrière El Pistolero et notre ami Georges Quirino. Il faut pas dire venga, hein, tu dois garder ta ligne droite, hein, mon cher Georges.
Oui, Philippe Mauduit, directeur sportif qui est derrière lui, est français, donc je pense qu'il dira des allez plutôt que des venga derrière Alberto Contador. On est dans les derniers hectomètres de l'ascension de la côte de Puissanière, derrière l'Espagnol que l'on a vu tout dedans dehors, Alberto Contador qui a relancé dans les derniers mètres de cette ascension. Voilà, il bascule à l'instant même dans la descente, il s'était remis en danseuse pour les derniers kilomètres, il est en train de tout donner. Ça se voyait dans son attitude à l'Espagnol qui vient de passer avec le meilleur temps de 17 secondes au premier chrono intermédiaire, si je ne me trompe pas, pour Alberto Contador qui vient de basculer dans la descente. La route est encore un petit peu humide pour Alberto Contador qui est en train de prendre tous les risques. Là, il prend les bonnes trajectoires dans cette descente. Contador qui voilà est maintenant parti à fond dans cette partie descendante. Attention parce que c'est très sinueux pour Alberto Contador désormais.
17 secondes d'avance donc pour Contador au premier point intermédiaire après 6,5 km de course.
Sur Joaquin Rodriguez évidemment puisque Christopher Froome n'est pas passé. Bauke Mollema, le deuxième du général non plus. Contador qui compte donc 17 secondes d'avance sur son compatriote Joaquin Rodriguez. Valverde.
Le meilleur temps va tomber.
2 secondes au premier point intermédiaire. 2 secondes seulement de retard pour Christopher Froome sur Alberto Contador. Meilleur temps provisoire après 6,5 km au sommet de la première difficulté de la journée pour Contador. Christopher Froome est à 2 secondes.
Alberto Contador va passer dans quelques instants au point intermédiaire numéro 2 et on verra s'il est sur le même rythme que tout à l'heure.
Le point intermédiaire numéro 2 très significatif puisqu'il s'agit du sommet de la deuxième et dernière difficulté de la journée à 12 km de l'arrivée à Chorges. Les meilleurs temps sont en train d'être réalisés. Pour l'instant, meilleur temps provisoire, Joaquin Rodriguez, l'Espagnol, avec à 3 secondes seulement le Tchèque Roman Kreuziger, coéquipier de Contador. Alejandro Valverde est troisième à ce deuxième point intermédiaire. Dans quelques instants, Alberto Contador va passer et devrait battre le chrono de Joaquin Rodriguez.
Alberto Contador qui vient de passer au point intermédiaire numéro 2, il est en tête évidemment. Il n'a que 6 secondes d'avance sur Rodriguez. Hein. L'avance s'est réduite entre Contador et Rodriguez. Tout à l'heure, il y avait 17 secondes à l'avantage du pistolero sur Rodriguez. Il n'y a désormais plus que 6 secondes d'avance pour Alberto Contador, alors que Mollema et Chris Froome ne sont pas encore passés à ce point intermédiaire numéro 2 situé au kilomètre 20. A priori, Contador, Fred, un peu plus en difficulté. Hein. Il a eu du mal à conforter son avance.
Bah, il a pris un départ canon. Il a joué exactement le même jeu qu'hier vers Gap lorsqu'il a mis la pression sur Christopher Froome dans la descente. Cette fois, il a voulu mettre la pression sur Christopher Froome en prenant un départ canon. Grosse information, l'abandon de Jean-Christophe Perrault qui était 9e au classement général ce matin. Jean-Christophe Perrault qui n'a pas terminé les 32 km, peut-être victime d'une nouvelle chute, probablement parce qu'il semblait plutôt à l'aise sur son vélo, lui qui n'avait compté concédé qu'une 54 au deuxième point intermédiaire. Il n'aura pas vu la ligne d'arrivée à Chorges, direction l'hôtel et direction la banquette arrière de la voiture AG2R La Mondiale pour celui qui était premier français du classement général ce matin. Journée noire pour Jean-Christophe Perrault. On rappelle qu'au deuxième point intermédiaire, dans l'attente des meilleurs ici sur la ligne d'arrivée, Alberto Contador est en tête avec 6 secondes d'avance sur Rodriguez et 9 sur son propre coéquipier Roman Kreuziger. Il en reste 2 à passer au kilomètre 20. Bock et Mollema, le Hollandais, Christopher Froome, évidemment, le maillot jaune.
Et oui, on va évidemment surveiller avec beaucoup d'intérêt le passage de Mollema, qui tout à l'heure était en difficulté au passage numéro 1 et qui va sans doute une nouvelle fois concéder beaucoup de temps ici au point intermédiaire numéro 2, alors que Chris Froome, lui, on le rappelle, n'était qu'à 2 secondes derrière Contador tout à l'heure, Fred. Donc, évidemment, la bagarre entre les deux est très importante. Hein.
Oui, oui, oui. Le duel, le mano à mano à distance, hein, puisqu'il s'agit d'un contre la montre individuelle, et parce que les deux principaux prétendants au général sont tout de même distancés, séparés de 4 minutes 25 au classement général en faveur du Britannique. Pour l'instant, ces deux-là continuent de se livrer une guerre sans merci sur les routes des Hautes-Alpes.
Allez, on va retrouver la moto RMC qui se trouve derrière le maillot jaune et derrière la nuée de motos et de voitures. Georges Quirino.
Dans la route, Christopher Froome, effectivement, s'est bien replacé grâce à Marco. Derrière, Christopher Froome qui est à moins d'un kilomètre désormais du sommet de la dernière ascension, la côte de Réalion. On a fait un petit pointage tout à l'heure lorsqu'il est passé sous la banderole indiquant les 15 derniers kilomètres, Christopher Froome. Dans la vallée, il avait perdu 20 secondes sur Alberto Contador et à 15 kilomètres de l'arrivée, donc dans cette ascension, il n'était plus qu'à 15 secondes. Donc il avait repris 5 secondes à Alberto Contador, ce qui confirme que l'Espagnol pioche peut-être un petit peu dans cette ascension, alors que Christopher Froome, même s'il ne semble pas impressionnant hein, visuellement depuis quelques minutes, depuis le début de cette ascension, il est assis complètement sur son vélo, il ne se met jamais en danseuse, Christopher Froome, mais voilà, c'est efficace pour le maillot jaune qui continue, qui regarde devant lui, mais qui regarde le plus souvent ses jambes, il se regarde sa fréquence de pédalage, son pédalier, pour s'assurer eh bien, qu'il est toujours dans le bon tempo, Christopher Froome. Dans les derniers lacets de cette ascension, ce sera important de voir si lui aussi va changer de vélo au sommet, comme l'a fait Bauke Mollema il y a quelques instants, l'Irlandais. Il a changé de vélo au sommet pour prendre le vélo de contre-la-montre pour les derniers kilomètres. On va voir dans quelques instants et vérifier si Christopher Froome lui aussi va décider de faire cette solution.
Très bien, nous allons suivre ça dans quelques instants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde derrière le leader de ce Tour de France, Chris Froome. Impression, Lucho, sur la performance de Chris Froome, comment tu le trouves dans ce contre-la-montre?
C'est kiff-kiff pratiquement entre Chris Froome et Alberto Contador. On va voir le deuxième temps intermédiaire de Chris Froome qui est en train de changer de vélo pour la partie descendante qu'il va rejoindre, ben donc sur la ligne d'arrivée. Chris Froome qui a peut-être... ouais, il n'est pas passé encore au deuxième passage. Hein. Il arrive à égalité au deuxième temps de passage pour l'instant avec Contador. On attend de savoir exactement l'écart.
Plus 11 secondes
d'avance Contador.
11 secondes de retard.
Pour Contador, oui, sur Chris Froome. Ça veut dire que Chris Froome a bouché déjà plus de 10 secondes par rapport au premier temps intermédiaire face
Non, il y avait 2 secondes d'écart en faveur des Contador, il y en a désormais 11.
À un moment donné, si tu veux, Giorgio qui est sur la moto nous avait dit qu'il y avait 20 secondes d'avance pour Contador, donc ça veut dire que dans la deuxième montée, Froome a repris du temps sur Contador, et ce qui va permettre peut-être à Froome de reprendre encore davantage de temps, parce qu'il est quand même meilleur rouleur que Contador dans la dernière partie, donc descente et plat sur la ligne d'arrivée. Donc on voit pas comment Froome peut échapper à la victoire aujourd'hui sur ce contre la montre.
Alberto Contador va en terminer dans quelques instants puisqu'il passe à l'instant même sous la banderole du dernier kilomètre. Alberto Contador qui relance, qui tente de faire les écarts. Ce sera dur de faire les écarts aujourd'hui, Fred, mais il veut remporter cette étape, Alberto Contador.
L'ancien double vainqueur du Tour, il affirme qu'il est triple vainqueur du Tour, mais rappelons qu'il a été déclassé sur l'une de ses victoires dans la grande boucle, est en train de renaître tel un phénix en cette troisième semaine. Il a mené la vie dure hier à Christopher Froome en direction de Gap et a même chuté dans la descente de la Rochette en entraînant dans la caillasse, dans le bas-côté, le maillot jaune Christopher Froome. Cette fois, la guerre a eu lieu à distance entre l'Espagnol Contador et le Britannique Christopher Froome. Ils se tiennent en 11 secondes au deuxième point intermédiaire et ici, sur la ligne d'arrivée à Chorges, Alberto Contador va sans doute, comme à Annecy il y a quelques années, on s'en souvient, remporter le contre-la-montre. On attend tout de même l'arrivée de Christopher Froome après lui. Mais Alberto Contador est en train de s'arracher les mains.
Il reste 10 secondes pour arriver.
Les mains en bas du guidon avec son prolongateur au-dessus du cintre. Il va tenter d'aller chipper le meilleur temps à Joaquin Rodriguez. Joaquin Rodriguez battu pour une seconde.
72 centièmes de seconde.
7 dixièmes d'avance pour Alberto Contador sur la ligne d'arrivée devant son compatriote Joaquin Rodriguez. 13 secondes sur Crazy Girl. Le seul qui pourra l'inquiéter pour la victoire d'étape aujourd'hui s'appelle Christopher Froome. 2 semaines et demie après le départ du Tour en Corse, le duel annoncé entre Contador et Froome a bel et bien lieu.
Voilà, et Alberto Contador qui va s'emparer de la deuxième place. On va le retrouver, Alberto Contador, derrière la ligne avec Pierre-Yves.
Mejor tiempo, 3 segundos respecto al Purito Rodríguez.
Bueno, siempre está bien, teniendo en cuenta que solo hay 2 corredores por detrás.
Il reste encore 2 coureurs derrière.
Hasta por llegar el hombre más fuerte de la carrera y bueno.
Y él marcando mejores tiempos que Froome.
Mais là, c'est la lutte entre les hommes forts de la course et j'en fais partie.
Mejor tiempo que Froome. 11 segundos mejor en el segundo.
Más fuerte, seguramente me recuperará a tiempo.
Allez, voilà, c'était dans la meute, vous l'avez vécu en direct, quelques mots avec Alberto Contador qui est emmené, entouré par un cordon de gendarmes pour que lui aussi il puisse regagner l'arrière du protocole et attendre lui aussi ses dernières minutes importantes.
L'arrivée de Mollema et surtout de Chris Froome, on retrouve la moto RMC parce qu'il y a une averse en ce moment justement sur le porteur du maillot jaune, Georges Quirino.
Ouais, c'était quelques petites gouttes il y a quelques instants, c'est désormais une vraie averse, ça tombe franchement depuis une minute environ sur Christopher Froome qui passe à l'instant même sous la banderole indiquant les 5 derniers kilomètres pour le maillot jaune qui part néanmoins à toute vitesse dans cette descente qui est beaucoup moins technique que la précédente. La route est large, c'est une deux voies pour Christopher Froome qui a les mains en bas du guidon, le leader de la formation Sky qui ne devait pas prendre de risque, c'est ce qu'avait dit son directeur sportif Nicolas Portal. Il semble se contenir, mais pour l'instant Christopher Froome qui quand même va toujours aussi vite et on a du mal à le suivre dans cette descente également. On regarde le compteur qui est parfois frôle avec les 75-80 km/h pour Christopher Froome dans cette descente alors qu'il se rapproche de plus en plus de l'arrivée. La chaussée de plus en plus détrempée, évidemment l'averse qui s'est un petit peu calmée à l'instant.
Voilà, l'averse qui s'est calmée, mais là il va retrouver des portions un peu plus planes, Lucho.
Mais ça change tout quand même, parce que la différence, Contador va la faire dans cette partie descendante où lui est passé sous le sec. D'ailleurs on le voit à l'image, il est passé sous le sec et Christopher Froome est en train de ralentir un petit peu plus que Contador, donc il ne veut pas prendre de risque. De toute façon il a un matelas assez important au classement général. Bon, c'est vrai que l'attitude de Froome aujourd'hui c'était de vouloir gagner ce contre-la-montre devant Contador, même s'il y a de l'écart au classement général, c'est quand même la guerre des chefs entre les deux.
Et, oui, c'est une question d'ego,
c'est une question d'ego et je pense que Contador aura peut-être le dessus en fin de compte sur Chris Froome par rapport au dernier kilomètre.
La moto RMC derrière Chris Froome, tu as des temps de passage.
J'en ai un intermédiaire à 3 km de l'arrivée. Christopher Froome aurait 3 secondes d'avance sur Alberto Contador. C'est Jean-François Pécheux qui est juste derrière Christopher Froome qui a déclenché les chronos, donc ça signifie que le maillot jaune est en train de faire des derniers kilomètres et bien à fond, à toute vitesse, qu'il est en train de revenir donc sur Alberto Contador. Il prend des risques malgré ce qu'avait dit son staff avant le départ.
Christopher Froome Froome qui pointait avec 11 secondes de retard sur Alberto Contador au sommet de la deuxième et dernière difficulté du jour, la côte du Réalon à 12 km de l'arrivée. Froome, casque jaune et noir et combinaison jaune, est en train de terminer avec la descente et il ne reste plus qu'un autre coureur à en terminer, le Hollandais Bauke Mollema, dauphin du maillot jaune, qui est en total naufrage aujourd'hui et qui vient de terminer dans une barrière de sécurité en bas de la descente. Il n'a pas chuté, il n'est pas tombé du vélo, mais il s'est totalement affaissé dans une barrière métallique. Bauke Mollema qui pointait au deuxième chrono intermédiaire à 1,53 d'Alberto Contador. Il est totalement débordé dans la lutte pour la deuxième place. Bauke Mollema déstabilisé et qui est en train de vivre une troisième semaine particulièrement compliquée. On craint pour sa place sur le podium à Paris.
Ah oui, il va perdre beaucoup de temps évidemment et d'autres garçons vont sans doute le passer au classement général. Évidemment, Alberto Contador, mais on pense aussi à Kreuziger, à Quintana.
Qui a fait un très bon chrono.
Et Rodriguez qui était septième. Bon, Rodriguez un peu plus loin puisqu'il était pointé avec un retard de près de 3 minutes sur Mollema, mais en tous les cas, il va perdre sa place sur le podium. Aujourd'hui, Bauke Mollema, on verra demain dans l'Alpe d'Huez ce qu'il en est. Il va terminer dans quelques instants. Il est en retard, évidemment.
Bien sûr.
Bauke Mollema, Fred.
Oui, il sera débordé au classement général par Contador, bien sûr, par Kreuziger, le coéquipier de Contador, peut-être même par Nairo Quintana. Lorenz Stendam a aussi montré ses limites. L'autre Hollandais de l'équipe Belkin qui lâche sur la ligne d'arrivée 2 minutes 20 sur Contador. Mollema franchit la ligne d'arrivée avec 2 minutes de retard sur Contador et sera effectivement doublé par Kreuziger et pas encore par Quintana. Quintana qui va rester à la 5e place du général. Mollema qui va rétrograder de la 2e à la 4e, tandis que Contador va devenir 2e et Kreuziger 3e au général. On attend le dernier arrivant, Mr. Froome.
La moto RMC qui va décrocher derrière Chris Froome. Chris Froome donc en position de recherche de vitesse là dans les derniers hectomètres de cette étape. Chris Froome a envie de marquer les esprits, a envie de remporter une 3e étape sur les routes du Tour. Il lui reste 20 secondes pour cela. A priori, Fred, il devrait terminer devant Alberto Contador. Chris Froome.
Christopher Froome lancé tel un bolide et qui va tenter d'aller voler la victoire à Alberto Contador. Il y parvient sans problème, près de 9 secondes d'avance pour Christopher Froome qui a bel et bien terminé comme une balle. Alberto Contador est dépité, il a encore trouvé à qui parler et malgré les affres de la météo, Christopher Froome est bel et bien le patron du Tour. Il remporte sa 3e victoire d'étape sur ce Tour 2013 après Aix-Trois-Domaines, après le Ventoux. Il est désormais le maître du temps, c'est sa première victoire dans un contre-la-montre. Christopher Froome qui comptera plus de 4 minutes 30 d'avance sur Alberto Contador au classement général ce soir. Il a une solide marge de sécurité à la veille de l'Alpe d'Huez. Premier donc ici sur la ligne d'arrivée, Froome devant Contador, Rodriguez, Kreuziger, Valverde et Quintana. On rappelle l'abandon de Jean-Christophe Pierrot, victime d'une nouvelle chute avec son 13 fracture à la clavicule droite. L'abandon de Jean-Christophe Pierrot et le classement général désormais toujours dominé par Christopher Froome qui compte plus de 4 minutes 30 d'avance sur Alberto Contador. La concurrence est reléguée dans les etc. par le maillot jaune britannique. 4,34 de retard pour Contador au général, 4,51 pour Kreuziger. Mollema s'est confirmé désormais 4e du général à 6,23, 5e le colombien Quintana, le premier français après l'abandon de Jean-Christophe Pierrot. C'est Romain Bardet, 20e, son coéquipier chez AG2R La Mondiale, qui pointe désormais à plus de 28 minutes de Christopher Froome.
RMC jusqu'à minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour.
Nouvelle victoire donc de Chris Froome, la 3e depuis le début de ce Tour de France. Chris Froome qui est désormais largement en tête, encore un peu plus qu'il l'était ce matin puisqu'il possède désormais 4 minutes 34 sur Alberto Contador. On va évidemment revenir sur la bataille pour le général dans un instant, mais auparavant, messieurs, d'abord je vous salue, monsieur Guimard, bonsoir, salut le druide.
Oui, bonsoir.
Lucho est également avec nous, bien à l'abri dans le camion.
Oui, bonsoir.
On est mieux là dehors, hein, on est mieux que là dehors parce que c'est...
Oui.
Il tombe
là, là c'est les gros orages.
Ah ouais, gros orages de montagne. Oui, oui. Et Thierry Bourguignon, bah lui il est dans sa maison à Avignon, il doit faire beau, il doit faire chaud, il n'y a pas d'orage à Avignon. Salut Thierry.
Et bonsoir messieurs, mais il y a un petit peu d'orage, mais un peu moins fort que vous. Hein.
Ah oui, oui, parce que là, ça tonne.
C'est grave.
Ça tonne et il y a des éclairs partout. On espère qu'on va pas être coupé. Autrement, Thierry, c'est toi qui fera le débat tout seul. Hein.
Et on assurera.
Alors, messieurs, vous avez tous vu cette terrible image. Pour moi, c'est probablement l'image de ce Tour de France. Il y en aura peut-être d'autres demain et dans les jours qui viennent. Il y a eu aussi, évidemment, l'image de Chris Froome qui a sprinté l'autre jour dans l'ascension du Mont Ventoux. Mais l'image de Jean-Christophe Perrault cet après-midi qui chute sur son épaule malade, sur son épaule fracturée le matin même, plus exactement sur sa clavicule. On rappelle donc ce matin que Jean-Christophe Perrault avait tenu à faire une dernière reconnaissance de ce contre-la-montre atypique, avec deux montées et surtout deux descentes assez vertigineuses. Et malheureusement pour Jean-Christophe, eh bien il a chuté ce matin et a été victime d'une fracture de la clavicule. Malgré tout, JC Perrault a tenu à prendre le départ de l'étape cet après-midi et pam, patatras, nouvelle chute à quelques centaines de mètres de la fin de la deuxième descente. Et cette fois-ci, Jean-Christophe Perrault a dû déclarer forfait pour le reste de ce Tour de France, abandonné. Terrible, Jean-Christophe Perrault. On va tout de suite écouter son témoignage. Tendez l'oreille parce qu'évidemment le ton est bas et on sent la déception dans les propos du leader de la formation G2R.
C'est pas la fracture qui m'a handicapé dans la courbe. Voilà, il recommençait à pleuvoir, peut-être que la route commençait à peine à redevenir humide et la roue avant est partie à nouveau dans un autre virage. J'avais pas l'impression de prendre des risques, je descendais à la mesure de ce que je savais faire, mais j'ai vraiment été piégé par la roue avant qui est partie dans le dernier virage. C'est le sport, je suis à peu près en bonne santé, j'ai juste une fracture de la clavicule. On prendra à vouloir insister sur des blessures graves. Je pense que je referai pas l'erreur. On va penser les plaies et on repartira sur un organisme frais et dispo.
Voilà, Jean-Christophe Perrault qui dit qu'il est en forme, qu'il est en bonne santé malgré une fracture de la clavicule qui ne l'a pas empêché malgré tout de prendre le départ tout à l'heure. Alors, messieurs, évidemment, lorsqu'on voit cette image, une image qui choque tout le monde parce qu'on imagine la douleur qu'il a dû ressentir, hein, Cyril. C'est terrible de chuter sur une fracture, surtout une fracture fraîche hein, qui date de quelques heures. Franchement, il a dû morfler quand même sur ce coup-là. Hein.
Oui, j'ai eu la chance de ne pas connaître ce genre de choses et on est beaucoup, mais c'est vrai que le vrai débat, c'est est-ce qu'il devait partir, pas partir, tenter le tout pour le tout. Je ne porterai pas de jugement par rapport à cela parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans cette affaire. Mais c'est vrai que cette chute spectaculaire, il est un petit peu hors trajectoire, mais est-ce que s'il n'avait pas été blessé, est-ce qu'il aurait chuté? On peut toujours se poser la question parce qu'il a quand même inconsciemment même il est obligatoirement gêné parce qu'il a cette souffrance au niveau de l'épaule. Je pense que sans blessure, je pense pas qu'il aurait chuté dans ce virage.
Oui, parce qu'il n'avait pas l'air plus dangereux que les autres, ce virage. Non, bon, la route redevenait humide après avoir séché pendant un moment.
Je pense qu'on est toujours... On est obligatoirement un tout petit peu crispé. Quand on est un petit peu crispé, eh bien, on a beaucoup de difficultés à refaire le geste précis, et ça a été le cas. Malheureusement pour Jean-Christophe, qui faisait un beau tour, mais on le retrouvera de toute façon, ouais. Et à mon avis, avant la fin de la saison.
Tu l'aurais fait partir, si tu avais été aujourd'hui le directeur sportif de Jean-Christophe Perrault, est-ce que tu l'aurais autorisé à prendre le départ? On sait qu'évidemment le coureur tenait à prendre le départ, il était 9e ce matin, premier français, il avait tout misé sur cette étape, ce contre-la-montre, il espérait se rapprocher du top 5 et comme ça être obligé à quelques heures du départ de devoir renoncer, c'est terrible, c'est un crève-cœur pour un coureur. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir être le chef et imposer ses choix.
Oui, mais il y a deux choses, d'abord il y a le médecin qui est le patron. Alors le médecin donne le feu vert ou ne le donne pas, mais la véritable décision dans un premier temps, elle appartient au médecin. Si le médecin dit éventuellement il peut partir, est-ce que véritablement le directeur sportif peut s'opposer au départ de son coureur si celui-ci veut absolument repartir? Vous savez, c'est très difficile, on est dans le Tour de France. Je peux vous dire que si ça avait été sur le critérium du Dauphiné ou la Route du Sud ou Paris-Nice,
oui, c'est ça.
Il n'aurait jamais pris le départ, il serait rentré. Mais on est sur le Tour de France. Donc il faut s'imaginer ce que représente pour un coureur le Tour de France, ce que représente pour l'équipe, ce que représente pour les partenaires le Tour de France, et à plus forte raison lorsqu'on est dans le top 10. Donc personnellement, ouais. Je ne prendrai pas position parce que je ne suis pas en position de la prendre. Et j'ai été sur un Tour d'Espagne dans une situation un peu identique, pas tout à fait, puisque le maillot jaune de l'équipe Dominique Gagne, puisque c'est lui qui avait le maillot, a chuté. Bon, il avait une petite perte de conscience. On était à 80 km de l'arrivée et j'ai demandé à ce qu'il monte dans l'ambulance.
D'accord.
Mais on n'est pas dans les mêmes circonstances.
Oui, oui, donc, c'était pas le Tour de France, c'était la Vuelta.
Je ne donnerai de leçon à personne.
Non, non, il ne faut pas donner de leçon, évidemment, parce que tout le monde est déçu. Luc, si toi, tu avais été dans la peau de Jean-Christophe Perrault, est-ce que tu aurais pris le départ dans la peau, c'est-à-dire 9e au général, premier français, avec beaucoup d'espoir sur cette étape, mais avec une clavicule, une clavette en balade?
Après, tout dépend de la douleur. Bon, après, c'est vrai qu'il était...
On l'a vu,
ouais, mais c'était,
avant de prendre le départ, voilà. Il était livide.
J'aurais pris le départ aussi, mais je pense que si Perrault avait terminé ce contre-la-montre, je pense que la difficulté de Jean-Christophe, c'était surtout demain. Parce qu'à froid, passer la nuit à froid le lendemain, je pense que ça aurait été très très difficile pour Jean-Christophe, même s'il avait continué le chrono. Mais malgré tout, il a fait quand même une belle performance. Il était bien par rapport
à... Oui, il perdait
pas trop de temps. Ouais. Mais ceci dit, demain, je pense pas qu'il aurait pu continuer le tour dans ces conditions-là.
Mais toi, tu aurais pris le départ.
Moi, j'aurais pris le départ.
D'accord.
Thierry, c'est le Tour de France, on est français.
Ouais. Thierry, il y a quand même que dans ce sport qu'on peut prendre le départ d'une épreuve avec une clavicule cassée. Pas beaucoup d'autres exemples. Si, peut-être les pilotes moto aussi qui sont des risques tout.
Les pilotes moto, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps.
Bien sûr. Des gens qui arrivaient quasiment en chaise roulante, qui montaient sur leur moto et qui prenaient le départ.
Cinq jours après l'opération de sa clavicule, il est remonté sur une moto, Lorenzo, il a fait un grand pli. Oui. Bon, là, en l'occurrence, c'est très difficile de dire quoi que ce soit. C'était le moment. On n'a pas vu. Il parlait d'un trait de fracture. Bon, il y avait sûrement une petite douleur, certes.
Ah, une petite, tu dis, une fracture de la clavicule, c'est super douloureux quand même.
Non, je t'assure, non, ça veut rien dire. Ça, c'est suivant la personne. Parce que moi, je me la suis cassée il n'y a pas si longtemps.
Moi, il y a un an, je peux dire que ça
moi,
fait
mal. Moi, je me suis pris une fracture de la clavicule, je peux te dire que j'ai dansé. Hein.
Ah ben ouais, on n'a pas la même chose.
Ouais, je me suis relevé. C'est pour ça vous êtes des warriors, vous.
Non, mais je me suis relevé, là, il y a 6 mois, avec une fracture de la clavicule bien déplacée. Et voilà, je me suis tiré au bord de la route, j'ai appelé ma femme et j'ai dit, appelle-moi.
Ouais, mais t'as pas ramené la voiture à la maison.
Ah ben non, mais attends, attention, il y avait déplacement et tout. Non, mais bien sûr que non. Mais là, tu l'as dit, mes collègues l'ont dit, on est au Tour de France, c'était le premier français, c'est très difficile de quitter un grand tour comme ça. On essaie toujours de s'accrocher à ce qu'on peut. Lucho, tu l'as dit, même s'il passait ce chrono avec certes une 50, je crois qu'il avait de retard, bon, ça c'est pas grave, mais demain il aurait fait quoi? Je pense qu'il n'aurait jamais été dans l'allure et puis il aurait été obligé de bâcher, mais voilà, dans l'obligation de bâcher, alors qu'on ne se retire pas du Tour de France, on l'a toujours dit. Et oui, on essaie toujours de s'accrocher. Ouais. On dit, oh, ça va passer, on va y arriver. Et puis, force de douleur, on est obligé de descendre de vélo. Ça fait mal. En voyant l'image, franchement, on a mal en le voyant glisser. Ça fait très mal.
Ça fait très mal. Frédéric nous appelle au 32-16. Il voulait intervenir sur le sujet de Jean-Christophe Perrault. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir.
Bon, alors, votre avis là-dessus. Faut-il le laisser prendre le départ?
Alors, moi, je pense que... Enfin, oui, il a bien fait. Enfin, je veux dire, là, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de se dire. Lucho a rappelé, là, il a rappelé l'épisode Pascal Simon, je crois, hein, c'est ça, en 82.
Oui, tout à fait, ouais.
Mm-hmm. Maillot jaune, il est tombé, clavicule, pareil, hein, je crois. Ouais. Et puis, moi, je me rappelle...
Plusieurs jours avant d'abandonner, finalement.
Pardon, ouais.
Ouais. Oui, Fred.
Oui. Et puis je me rappelle l'épisode Hamilton, ambiance, US Postal. Bon, c'est peut-être pas très glorieux.
C'est différent. Là. C'était notre époque.
Je crois même qu'il n'avait pas gagné l'étape dans les Pyrénées, c'est comme ça, non?
Si. Plus, dans les Pyrénées, il avait gagné l'étape.
Mais bon, on n'a jamais vraiment su quel était l'état de sa clavicule ce jour-là. Il nous disait.
Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, un trait de fracture, ça veut rien dire.
Oui, c'est pas.
Bon,
il y avait des placements. On nous disait qu'il y avait des placements.
Disons, c'est pas la première fois qu'un gars qui se pète la gueule. C'est pas la première fois qu'un gars qui se pète la gueule remonte le vélo, hein, et surtout sur le tour. Et donc, je vous ai écouté là, et je rappelle, moi, ce qui me vient en premier, là, vous venez de le dire, hein, premier français, dans les 10, quand t'es français, que tu finis le tour, dans les 10 premiers du Tour de France, c'est une quasi-victoire, hein. On se rappelle, Vauclair et Pierre Roland... il y a deux ans, un petit peu avant, il y avait Dessel et Moreau. Enfin,
oui, Moreau.
Être, être dans les pieds sur le tour, c'est important. Arrêter le tour, dans la dernière semaine, putain, fait chier. Ouais. Alors effectivement,
On va devoir faire court là parce qu'on on va devoir s'arrêter. Donc allez-y, concluez.
Non, non, mais qu'est-ce qu'il va faire demain? Peut-être qu'il va finir avec le groupe Eto Cavendish, peut-être qu'il finira le tour, tu vois. Mais quand t'es dans ce qui, bon, Lucho et Thierry et Cyril, vous connaissez ça. Hein.
Ouais. Oui, alors je voudrais seulement rajouter une petite chose, c'est qu'on est dans le cadre d'un contrat de travail, et donc du code de travail, je sais pas si le médecin a le droit de le laisser partir.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
Nous débattons évidemment comme tous les soirs dans l'intégrale Tour de France avec toute la Dream Team, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Nous avons parlé du cas Perrault qui a donc abandonné le Tour de France aujourd'hui, victime d'une fracture de la clavicule. Intéressons-nous maintenant, si vous voulez bien, à la bagarre pour le général avec une nouvelle victoire de Chris Froome qui s'impose avec 9 secondes d'avance sur Alberto Contador. Contador qui était pourtant devant Froome, Cyril, dans tous les points intermédiaires, notamment le premier. Le deuxième, il avait 11 secondes. Le premier, il avait 2 secondes d'avance. Le deuxième, 11 secondes. Et puis...
Le deuxième, il ne faut pas le compter, puisque en fait, voilà. Il change de vélo. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être aussi intentionnel de changer avant le poste. Comme ça, le premier écart qui arrive sur Contador, il est en retard. Parce qu'à mon avis, il était pratiquement... Il y avait 11 secondes. Le changement de vélo doit prendre entre 10 et 15 secondes. Donc, ils étaient pratiquement à égalité. Sauf que le changement de vélo de Froome lui permet de priver Contador de la victoire, car Contador, lui, n'a pas changé de vélo. Et dans les derniers kilomètres, il y a un écart énorme.
Voilà,
vélo
bah oui, il y avait entre 11 et 9. 11 plus 9, ça fait 20 secondes d'écart sur 12 kilomètres. Hein, il lui a repris 20 secondes. Ouais. Chris Froome a repris 20 secondes à Contador en s'imposant. Est-ce que Contador a fait une erreur tactique en ne changeant pas de vélo? Lucho, qu'est-ce que tu en penses? C'est quasiment le seul des grands leaders qui n'a pas changé.
Sachant qu'il restait quand même pas mal de bornes avant l'arrivée et que la descente était très, très, très rapide. Hein, c'était vraiment pas du tout l'identique de la première descente. Ben oui, il aurait fallu changer de vélo. C'était une question de 4-5 secondes. Le mécano, paf, bandit, lui donne le vélo. C'est quoi? C'est, allez, 4-5 secondes de perdu, Cyril.
Un peu plus.
Tout petit peu plus, mais bon, ça valait le coup.
Il faut compter au minimum 10 secondes.
Ouais, c'est bon, ouais. Ça valait le coup quand même de le changer, le vélo. Surtout qu'il avait de l'avance sur Froome.
On voit qu'en Formule 1, on change les pneus, on va plus vite après. Tiens, on va écouter justement à ce propos Chris Froome. Est-ce que cette victoire, aujourd'hui, cette troisième victoire sur les routes du Tour, est due justement à son changement de vélo? On écoute tout de suite le leader du classement général.
Ce matin, quand on a vu le parcours, j'ai décidé à prendre le deuxième vélo, le contre-la-montre, parce que c'est plus vite pour le deuxième part de course, parcours qui était plus vite. Et oui, je crois que ça, c'était le bon choix.
C'était le bon choix, nous dit Chris Froome. Qu'en dit Philippe Mauduit, directeur sportif d'Alberto Contador? Pourquoi ne pas lui avoir donné un vélo de contre-la-montre dans la descente, Philippe Mauduit?
Non, parce qu'on voit déjà que dans la dernière montée, Chris reprend une grosse partie du temps qu'il avait perdu dans la deuxième montée, il reprend une grosse partie du temps qu'il avait perdu dans la première montée. Donc après, on peut spéculer sur le changement de vélo. Je pense qu'au final, c'est kiff-kiff, quoi. Et il faut faire des savants calculs pour savoir quelle était la bonne option. Je pense que Chris, sur un terrain moyennement vallonné, voire plat, lui est très supérieur. Et bon, c'est comme ça, c'est déjà pas si mal ce qu'il a fait.
Voilà, donc Philippe Mauduit qui pense, lui, que le changement de vélo n'aurait pas fait la différence. Thierry, ton avis, toi qui es quand même l'homme du vélo, hein, qui vend des beaux vélos look, alors est-ce qu'il y a une vraie différence entre le vélo de contre-la-montre et le vélo normal, le vélo pour grimper?
Ah, bien sûr que sur un parcours roulant comme il avait sur le final, certes, on est plus avantageux à prendre un vélo de chrono puisqu'on est en plus bas, on a une position plus basse et plus aérodynamique qu'un vélo traditionnel. Bon, maintenant, c'est vrai que qu'on connaît le résultat, on a l'impression que, oui, c'est facile à dire, il aurait peut-être dû le changer, mais comme a dit Philippe Mauduit, je pense que Froome est supérieur à Contador sur les parcours roulants, et sur un final comme ça, il se devait.
Ouais. Je pense qu'il était grandissime favori, mais c'est vrai qu'on a douté à un moment donné.
Parce que
quand on a vu la pluie, Thierry, on s'est dit là, Contador a peut-être un coup à jouer parce qu'il doit prendre des risques. Il a pris des risques d'ailleurs dans la descente.
Oui.
Et puis finalement, la route s'est asséchée au moment où les deux hommes passaient et la différence était sompée. Et Chris Froome a repris sa supériorité. Il est supérieur en ce moment à Contador.
Oui, c'est un bras de fer aussi entre lui et Contador. Donc il n'y en a pas un qui voulait. Dans l'information, on l'a bien vu hier, Froome nous avait annoncé déjà qu'à la rigueur, s'il était battu, c'était pas grave parce qu'il n'allait pas prendre de risque. Et on a vu qu'aujourd'hui, il n'avait pas pris de risque du tout. Il s'est lâché comme un fou. Il s'est lâché comme un fou. Il est supérieur.
Ouais.
C'est vrai qu'en chrono, et Philippe Mauduit l'a dit, dans la dernière montée, il lui avait déjà repris du temps.
Ouais. Donc, Thierry, Luc et Cyril, demain, il va falloir prendre des risques. Il va falloir prendre des risques. Parce que vu ce qui nous tombe sur le coin de la figure en ce moment, vu les prévisions météo qui ne s'annoncent pas franchement très optimistes demain, on se dit que la descente de Sarenne pourrait être le juge de paix de ce tour.
Pourquoi pas la descente du col d'Ornon déjà?
Ah, d'accord. Pour toi, c'est la descente d'Ornon qui...
Non, mais on peut anticiper la chose. Tout le monde attend la descente de Sarenne. Mais si on veut allonger
Thierry,
le col d'Ornon...
Attends, il y a l'Alpe d'Huez à monter déjà.
Tu fais une descente. C'est pas te tuer au boulot. Tu fais la descente par rapport à un gars qui veut pas prendre de risque. Je peux te dire, dans le col d'Ornon, déjà, tu arrives en bas avec un peu d'avance. Et après, tu peux gérer différemment. Parce que là, c'est pareil. Tout le monde parle des deux montées de l'Alpe d'Huez. Mais dans ces cas-là, on va attendre la dernière montée si on calcule bien.
Mais non, attends, les deux montées, Thierry.
Rappelez-vous. Le thème du débat, c'est la descente de Sarenne. On parlera de la montée à un autre moment. Donc la descente de Sarenne, on va en parler avec Pierre-Yves, puisque vous ne voulez pas en parler. Vous parlez d'autre chose, mais de tout sauf de cette descente de Sarenne.
Ils ne sont pas sérieux.
Pierre-Yves, la descente de Sarenne, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Et en plus, la météo s'annonce particulièrement délicate demain, une nouvelle fois. Est-ce qu'il est envisagé, par l'organisation du Tour de France, de neutraliser cette étape, de neutraliser en tous les cas la descente, pas l'étape mais la descente? Est-ce que ça a été envisagé?
En tout cas, c'est la question qu'il ne faut pas poser à Jean-François Pécheux. Terriblement agacé parce qu'il a eu cette question toute la journée dans la voiture. Quand il est descendu de la voiture à la fin du contre-la-montre tout à l'heure, on lui posait encore la question et la seule réponse que j'ai entendue de lui, c'est: mais s'il y a de la neige sur les Champs-Élysées, évidemment qu'on ne va pas faire l'étape. mais de toute façon, là, il est question de pluie pour l'instant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un déluge pour que cette étape soit neutralisée, qu'il n'y ait finalement qu'une montée sèche de l'Alpe d'Huez. C'est pas du tout le programme prévu pour l'instant.
Non, c'est pas possible.
Mais oui, mais Christophe, si tu envisages d'enlever Sarenne, la descente du col de Sarenne, tu gâches cette étape.
Ah, bien sûr,
Dans ces cas-là, pourquoi pas neutraliser aussi toutes les descentes? Parce que quand pleut, on va neutraliser toutes les descentes. Ouais.
C'est des confrères qui ont lancé cette rumeur, mais bon, Jean-François Pécheux a tenu à y mettre fin. Donc demain, quelles que soient les conditions, à part évidemment si la route s'écroule, mais ça, on compte sur Dédé. On compte sur Dédé pour nous
l'assurer. Tu l'as cassé tellement cet après-midi.
Il est avec nous ce soir. Ça va, André?
Oui, ça va.
André Mancala de l'Assemblée des départements de France qui prépare la route. Cette descente de Sarenne, parle-nous-en en quelques mots. Pourquoi fait-elle peur à tout le monde?
Parce qu'elle est extrêmement étroite. C'est une route qui fait entre 3,50 m et 4 mètres de large. Dans la montée, il y a 4-5 lacets et dans la descente, il y en a beaucoup plus. On n'a pas possibilité de relancer entre un lacet et l'autre. On passe un lacet et on retombe sur une épingle juste après. Alors certes, ça a été utilisé, la route a déjà été empruntée sur le critérium, donc ça n'est pas totalement inédit dans le monde du vélo, mais ça reste quand même dangereux. Quant au revêtement, il n'est pas forcément en mauvais état. La montée est un peu plus dégradée que la descente, donc c'est plutôt en descente que les risques se prennent, évidemment. Sur la descente, ça devrait relativement bien passer.
Est-ce que c'est plus dangereux, par exemple, que la descente que nous avons vécue aujourd'hui, celle où a chuté Perrault ou tous les autres? Non, c'était surtout la première descente qui était
étroite. On est à peu près la même chose. C'est un peu comme la descente de la
Croix-de-Mer. Sauf qu'il y a le ravin. Et le ravin, il est vertigineux.
Le problème, c'est ça. En plus, il n'y
a pas de protection.
Il y a très peu de parapet, très peu de protection. Si on tombe, on tombe de haut.
Oui, mais André, André, c'est la même chose pour le col d'Ornon. Le col d'Ornon, c'est un peu plus large, certes.
C'est plus large.
Mais il y a un précipice dès qu'on sort de la route.
C'est-à-dire que si on tombe dans le précipice, il y a peu de chances qu'on vous récupère en bon état.
On fonctionnera beaucoup moins bien après.
D'accord. Bon,
c'est pas une clavicule, là, c'est autre chose.
Ça fait peur à tout le monde, notamment à Andy Schleck. On va écouter Andy Schleck et ensuite je vous demanderai votre avis sur cette étape. Andy Schleck, le grand grimpeur luxembourgeois, l'ancien grand grimpeur luxembourgeois, mais qui n'a jamais été un grand descendeur. Est-ce qu'il en a peur de cette descente?
Je dois dire, ça c'est vraiment très très dangereux. Quand nous on a fait, il y avait une semaine après le Dauphiné, il a passé. On a aussi vu des autres coureurs qui ont critiqué ça. Ça c'est quelque chose que moi je comprends pas, parce que tu peux faire des descentes acceptables, ça c'est pas vraiment acceptable pour, parce qu'on, mais on n'a pas le choix de le faire, parce que là si tu as une crevaison avant un virage, si tu rates la route, parce que c'est seulement 2 mètres et le peloton qui descend à bloc, tu tombes pas dans les herbes, mais tu tombes et tu descends 50, 150, 300 mètres. Tout le monde, l'équipe qui était avec nous, on était très choqués.
Voilà, Andy Schleck qui nous dit effectivement, si tu passes par-dessus le parapet, tu tombes de 100, de 150 mètres. Et là, effectivement, on te récupère en morceaux en dessous. En plus, André, les conditions sont évidemment difficiles. Il pleut ce soir sur Chorge et il pleuvra demain dans l'après-midi sur l'Alpe d'Huez. Hein. Oui, Cyril ?
Oui, j'ai regardé la météo. Il y aura effectivement de gros orages dans la descente entre 12h et 16h.
Très bien. Monsieur Météo, la grenouille d'RMC, c'est Cyril.
Notre druide. Non, je suis déjà le druide, je ne vais pas m'appeler la grenouille. J'ai pas d'échelle.
Il a coupé des dés. Ce qu'il ne dit pas, c'est que qui dit eau dit peut-être des coulées d'eau et éventuellement un peu de boue, un peu de gravillon.
Ah oui, ah bah ouais,
donc on peut avoir la totale.
La totale. Il n'y a pas de neige non plus demain annoncé. Hein, ça va, on est tranquille de ce côté-là.
Ouais, André, ne fais pas
il peut
plus
y avoir,
peur.
Il y a quand même aussi pas mal d'animaux qui sont dans le coin.
C'est une zone, si tu croises des sangliers en plus,
des marmottes éventuellement.
C'est une zone
protégée. C'est quand même une zone protégée. Et si quelques animaux se baladent un peu en hauteur, ils peuvent faire tomber quelques cailloux, alors c'est pas des blocs, hein. Ouais. Ils peuvent faire tomber quand même quelques caillasses sur la chaussée, d'où les précautions prises par le département qui a rajouté des balayeuses et des chargeurs, donc des bulldozers pour nettoyer.
D'accord.
Éventuellement, donc c'est quand même assez tendu.
Et il y aura pas de neige, hein. Il fera 17 degrés.
17, oh, ça va,
mais non, mais faut pas en faire un plat.
On essaye de dramatiser un peu
ça,
tout
ça. Super sympa.
Dans le col d'Ornon aussi qui se remplit d'eau, hein. il y en a deux, des passages à
gué. Ah oui, il y a deux passages à gué. Super sympa, hein. Quand il fait des gros orages, ça peut être coupé.
On va écouter Nicolas Portal, le directeur sportif de Chris Froome de la formation Sky. Lui, il craint que Alberto Contador attaque et ne fasse tout exploser. Nicolas Portal.
Je sais pas si. En fait, la vraie question que vous me posez, c'est est-ce que des coureurs vont prendre cette descente pour rester sur la course? Ça, franchement, je sais pas. J'espère.
Dans l'autre sens,
j'espère pas. Non, mais voilà, on est clair, c'est ça. J'espère pas parce que ça m'est quand même très, très, très compliqué. Quoi. Là, on joue avec des vies humaines quand même.
Vous envoyez un message à Alberto Contador, alors si on doit nous attaquer, c'est pas là.
Non, s'il veut attaquer, il part tout seul, mais il évite d'amener trop de monde avec lui, quoi, parce que ça va. C'est peut-être pas tout le monde qui peut prendre sa roue, quoi.
Voilà, Nicolas Portal.
On acceptise.
Ouais. Ah non, mais tout le monde a la truc. Cyril, elle te fait peur cette descente?
Non, je la connais pas.
Tu la connais pas.
Non, mais de toute façon, toutes les descentes sont dangereuses. Quand vous avez la muraille d'un côté, vous prenez un virage, vous ratez, vous crevez, vous allez percuter la muraille. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a eu un accident. D'ailleurs, c'était sur le Giro. Et c'est dans la muraille qu'on a tapé. Bon, le cyclisme n'est pas un sport où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas dans une course cycliste. Il n'existe pas dans une course de voiture, il n'existe pas dans une course de moto. Il n'existe pas dans les courses.
Oui, mais à la différence de la moto ou de la Formule 1, les cyclistes, ils sont en short avec un tout petit casque et en t-shirt. Hein, et quand on chute, ça fait pas du bien.
Du vernis qui s'enlève. Ça
oui,
va encore.
C'est du vernis, mais 150 mètres de chute, c'est pas du vernis. Hein. C'est
oui,
pas du vernis, 150 mètres.
Ça, c'est autre chose.
Bref, on verra demain, mais ce serait bien quand même que les conditions s'améliorent, même si, évidemment, on veut assister à du spectacle. Mais enfin, il faut quand même raison garder. Voilà donc pour la descente de Sarenne. Merci à André. On va, nous, revenir dans quelques instants. On va faire les paris. Il s'est passé des drôles de choses, encore dans cette étape. Il y en a certains qui ont fait comme Jean-Christophe Perrault, hein, qui ont chuté à 2 reprises aujourd'hui. On en parle dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, toute une journée en 1 heure, c'est le meilleur du tour.
Spécial Tour de France au soir de la 17e étape du Tour de France, donc ce dernier chrono qui nous a conduit de Embrun jusqu'à Chorges en attendant l'étape de demain, l'étape Rennes entre Gap et l'Alpe d'Huez. Nous allons tout de suite revenir sur les paris. Il s'est passé des choses cet après-midi. Benji est là.
Les paris RMC Tour de France.
Monsieur Benji, bonsoir.
Salut, messieurs.
Salut, Benji. Je suis pas content, Benji. Hein.
Moi non plus. Parce que moi, je peux pas parier.
Parce que tout le monde a changé les paris cet après-midi, sauf moi.
Ah non, absolument pas. Personne n'a changé cet après-midi.
Personne n'a changé.
Christophe Stessieux a mis.
Moi, j'ai misé comme ça. Non,
c'est oui, personne n'a changé, Lucho.
Bon, Lucho, t'as perdu encore.
Non, mais de toute façon, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Bon, alors, Benji, raconte-nous un peu le bilan de ces paris.
Oui, bilan. En fait, rien n'a changé puisque la cote était tellement faible pour Froome, même si Christophe, Cyril, Bourgui et Virginie avaient joué Froome, ça ne change pas grand chose. Vous avez gagné 2 euros de bénéfice. Donc
non,
tout
j'ai
le monde...
mis 5000 euros. Moi, ouais. J'ai mis 5000 euros. Ah non, non.
Non, mais je suis désolé, Christophe.
5000 euros, c'est pas mal.
Je suis d'accord.
Non,
parce
j'ai
que
changé.
J'ai
rajouté.
Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas comptabilisé.
Tu as changé. Non, tu as mis.
Non, celui qui était en tête. Il a pris une deuxième possibilité.
Et voilà. Alors,
il a mis 200 euros. Mais
non, et il a perdu 200 euros. Il a perdu 200
ouais,
euros.
Ça lui fait baisser le truc. Regarde, qu'est-ce que mauvais joueur.
Vous êtes fou.
C'est bien un journaliste.
200 euros. Benji, écoute bien, il entend bien.
Journaleux.
Benji, oui, non, mais je vois pas pourquoi vous râlez puisqu'il a perdu de l'argent dans l'histoire.
Bah oui,
alors d'accord, mais c'est parfait.
Le tio, t'avais pas compris le truc.
Je vais être obligé de remettre mon maillot jaune que Thierry m'avait tricoté avec ses douces mains. Je vais le remettre à Cyril qui va évidemment rester en tête ce soir. Hein.
Ouais, mais avec obligation de le porter toute la nuit.
Benji, l'étape de demain, c'est donc l'étape reine de ce Tour de France, 18e étape entre Gap et l'Alpe d'Huez. Deux fois l'Alpe d'Huez, plus la descente de Sarenne. Quels sont les principaux favoris pour cette étape?
Et pour changer, c'est Chris Froome qui est favori de 90. Derrière, cote de 4 pour Nairo Quintana, Joaquin Rodriguez 8,50. Et puis après, on retrouve des coureurs avec des cotes beaucoup plus intéressantes comme Alberto Contador, cote de 12, Mikel Nieve à 16 ou encore Alejandro Valverde qui est à 17, Andy Schleck lui est à 20.
Très bien, je vais commencer comme ça au moins on m'accusera pas de tricher. Je vais mettre un billet sur Quintana et l'autre sur Rodriguez.
Ah voilà, mais moi depuis le 15 jours je dis que c'est Rodriguez qui va gagner l'Alpe d'Huez.
Je l'ai dit avant toi.
Tu sais très bien que je te l'avais dit,
mais
que cet après-midi j'insistais sur Rodriguez. Mais quelle mauvaise foi ce mec.
Vous avez joué tous les deux.
Rodriguez, c'est noté.
Thierry.
Ah, j'aurais tendance à vouloir Pierre Roland, mais Pierre Roland, de toute façon, c'est pas l'année des Français. Mais non, mais cet après-midi, il n'en avait rien à faire cet après-midi. Mais même, déjà, il a des pancartes accrochées.
Non, mais avec la descente donc, entre les deux, Thierry.
Et alors ouais. Et attends, il n'est pas si mauvais que ça.
Je l'ai suivi cet après-midi au chrono, il était collé. S'il pleut demain dans la descente,
aujourd'hui n'est pas la même journée de demain que demain. Il n'en avait rien à faire aujourd'hui. Demain, c'est un autre monde. Une autre journée. Je vais jouer un petit billet Pierre Roland et un autre sur Niévé.
Niévé, d'accord.
Niévé.
Niévé, c'est bien côté ça, Benji.
Oui, il est à 16.
Il est à 16.
Parce qu'il m'a fait impression le coup du Ventoux. S'il se glisse dans un coup demain et que la grande bataille n'a pas lieu, parce que tout le monde a peur de cette descente et ça peut refroidir tout le monde. Et comme d'habitude, on se fait un monde des grandes étapes de montagne et on s'aperçoit que les mecs, ils se font la guerre que la dernière montée. Donc j'ai l'impression que demain.
Ça va se passer dans la première montée de l'Alpe, elle va se faire tranquille.
C'est ce que je te dis.
La bagarre va commencer dans la descente.
Je pense que la bagarre elle va commencer dans la première montée avec les contadors et tout.
Tu penses?
S'ils veulent déstabiliser le maillot jaune, il faut qu'ils mettent le feu très tôt.
Cyril,
chacun leur tour.
Cyril observe le parcours, observe les positions des uns et des autres. Il réfléchit depuis un bon quart d'heure là pour
depuis le réveil ce matin et pendant mon footing de ce matin.
Je suis sûr qu'il va mettre sa gagne.
Alors de toute façon, vous avez une échappée qui va partir peut-être comme l'autre jour de 15 ou 20 coureurs et que c'est peut-être là qu'il faudra aller chercher le vainqueur. Mais c'est pas mon souci à moi. Je vais tout simplement miser sur Contador demain.
Tu penses que Chris Froome va le laisser partir et va le laisser s'imposer?
Je joue Contador, je ne ferai pas de commentaires particuliers.
On aime bien quand tu fais des commentaires, parce qu'on peut mettre un troisième billet.
Justement.
Rodriguez sera plus fort que Contador demain.
Eh bien, allez Rodriguez.
De toute façon.
Une seconde d'écart entre les deux hommes aujourd'hui. Hein. Contador qui s'impose devant Rodriguez.
Contador, il a fait une erreur aujourd'hui, à mon avis. Vous savez, entre le vélo de contre-la-montre et le vélo normal, même si on avait mis des petits prolongateurs, c'est entre 3 et 5 secondes au kilomètre quand même.
Est-ce que Virginie est là?
Elle est là, bien
elle
sûr.
Elle est là, Virginie. Mais je connais déjà son pari.
Eh ben non, en fait, je vais faire une mini entorse à ce que je fais habituellement. Je ne vais pas jouer Chris Froome. Non, mais ce n'est pas du tout pour copier sur Cyril, mais je voulais jouer Contador.
Tu vas jouer Contador.
Oui, je voulais jouer Contador.
D'accord, tu vas faire plaisir à
c'est bien,
à
vous avez tous perdu demain.
Ouais.
Parfait, parfait, je vais remonter au classement général.
Tiens, il y a Fred.
Il
n'y
en a pas un qui joue Froome.
Non, bah peut-être, peut-être Fred, il est là, Fred. Ouais, pour une fois, il est dans le camion, Fred. Il pleut aujourd'hui, donc il vient dans le camion. Fred.
Vous me prenez de court.
Ah bah non, tu réfléchis. Pom, pam.
Allez, Fred. Pom, Contador, bien sûr.
Contador, d'accord.
Il est tellement affûté, Fred, qu'il a le petit polo, la chemise longue par-dessus.
Très bien, on verra ça donc demain.
On arrive en montagne.
Ouais, on arrive en montagne. Enfin, on y est un peu déjà en montagne.
Oui, oui, non, mais attends, la haute montagne.
Ah, le Ventoux, c'était pas mal. Aujourd'hui, c'était bien, mais effectivement, demain c'est encore plus haut. Et après-demain aussi. Merci, Benji. On verra ça demain.
Ciao, messieurs.
Salut, Benji.
Salut.
RMC, 23h minuit. Toute une journée en une heure. C'est le meilleur du tour.